Et le journal ce soir est présenté par Nicolas Battu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Camille. Un arrêt des combats et des élections l'an prochain, c'est l'annonce surprise faite par les deux camps rivaux en Libye. Faut-il y croire? Début de réponse avec le chercheur Jalel Archaoui dans ce journal. L'activité diplomatique a été intense pour arriver à cette annonce. En Russie, l'état d'Alexei Navalny toujours préoccupant. Des médecins allemands ont pu venir à son chevet. À l'instant, les médecins russes annoncent que l'opposant Alexei Navalny peut être transporté. Les discussions sur le Brexit patinent. La nouvelle session de discussion n'a quasiment rien donné et chaque partie accuse l'autre. Johanna Hochstein à Bruxelles nous dira pourquoi. Demain, l'humanité aura consommé plus de ressources naturelles que la Terre peut renouveler en un an. La date a reculé de 3 semaines grâce au confinement d'une partie de l'humanité, mais cela ne change rien sur le fond, nous dira le climatologue Jean Jouzel. Éric Piolle et Jean-Luc Mélenchon, côte à côte, c'était il y a quelques heures aux amphis d'été de la France insoumise. Mise en scène de la gauche qui dialogue, nous racontera Sarah Tucherer. Un espoir en Libye, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, et le camp du maréchal Haftar ont annoncé la cessation des combats et l'organisation d'élections l'an prochain. Les deux parties l'ont annoncé séparément. La Libye est devenue le terrain d'une guerre qui s'est internationalisée, notamment depuis le soutien des Turcs et des Russes à l'un ou l'autre camp. Un espoir désormais, mais surtout un grand point d'interrogation tant cette annonce surprise semble le fruit de pressions diplomatiques multiples. Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales.
Ces deux annonces, elles se conforment aux desiderata théoriques des Américains. De ce point de vue-là, ça constitue le point de départ potentiel d'un processus qui pourrait être très vertueux et vraiment porteur de paix, peut-être. Donc c'est juste un point de départ pour l'instant qui se fait sous forme d'un effet d'annonce.
C'est l'œuvre des Américains, selon vous ?
En partie, en grande partie. Il y a d'autres morceaux de diplomatie qui ont été mis en branle pour arriver à ça, dont certaines bonnes dispositions de l'Égypte, par exemple, la contribution allemande. Il y a aussi le dialogue qui existe entre deux entités qui ne sont pas des amis, qui ne sont pas des alliés, qui sont même des adversaires, mais qui parlent. C'est Ankara et Moscou. Donc voilà, ce sont ces morceaux de diplomatie qui ont pu, et avec l'ONU évidemment, qui fait beaucoup de travail pour essayer de faire en sorte que ça reste dans les rails, mais ce ne sont pas des pays comme la France ou les Émirats Arabes Unis qui ont pu permettre cela.
Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales avec Valérie Crova. Les élections annoncées semblent par ailleurs compliquées à organiser. La Libye n'est pas pourvue d'une constitution. À la fin de sa deuxième journée d'hospitalisation, Alexei Navalny est toujours dans un état grave après un empoisonnement selon son entourage. Des médecins allemands sont arrivés en Sibérie occidentale où se trouve Alexei Navalny. Ils ont pu le voir. Les médecins russes qui disent n'avoir trouvé aucune trace de substance toxique s'opposaient au transfert du principal opposant à Vladimir Poutine. À l'instant, ils viennent de déclarer qu'il est désormais transférable. En Biélorussie, les menaces d'Alexandre Loukachenko. Le président annonce qu'il entend résoudre le problème de son opposition en quelques jours. Son opposante principale, justement, Svetlana Tikhanovskaya, tenait sa première conférence de presse internationale depuis Vilnius, tout à l'heure, où elle s'est réfugiée depuis le 10 août dernier. Éric Biagala, le peuple n'acceptera plus le leadership d'Alexandra Loukachenko, dit-elle, mais elle n'est pas allée beaucoup plus loin.
C'était une première pour Svetlana Tikhanovskaya, sa première conférence de presse internationale, et ça se voyait. Visiblement tendue, l'ancienne prof d'anglais de 37 ans l'a d'ailleurs répété face à la cinquantaine de caméras et micros tendus vers elle. La politique sonnait vraiment pas sa vocation. Ses réponses aux questions des journalistes sont courtes, presque lapidaires. L'essentiel de son message, elle soutient le mouvement de grève lancé au lendemain du scrutin du 9 août, encourage toutes les entreprises et les usines du pays à y participer, sans céder aux intimidations du pouvoir. Mais quand on lui demande comment l'opposition et elle-même en particulier peuvent rebondir, sortir du présent face à face, Svetlana Tikhanovskaya répond que c'est maintenant au pouvoir de Loukachenko lui-même de faire le premier pas.
J'espère vraiment que le pouvoir va écouter son peuple. Et comme on a toujours dit que le président aimait son pays et son peuple, ce qu'il voit aujourd'hui doit lui montrer que le peuple veut le changement. J'espère que le bon sens l'emportera et que le peuple sera entendu, que le pouvoir va entamer le dialogue et qu'on aura de nouvelles élections transparentes.
Quant aux possibles interventions étrangères, qu'il s'agisse des pressions, voire de la menace russe, comme des possibles sanctions que l'Europe évoque à l'encontre du pouvoir, Svetlana Tikhanovskaya a exactement la même réponse pour les deux, un appel à tous les pays, la Russie comme les Européens, à, je cite, « respecter la souveraineté de la Biélorussie ». Autrement dit, de ne pas intervenir dans le face-à-face entre le pouvoir de Loukachenko et l'opposition à celui-ci qu'elle-même représente.
Éric Biegala à Vilnius avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Recep Tayyip Erdogan a annoncé tout à l'heure la découverte en mer Noire d'un gisement gazier de 320 milliards de mètres cubes. C'est un volume inédit pour la Turquie. C'est la plus grande découverte gazière de l'histoire turque, affirme le président turc. On prend les mêmes et on recommence. Les négociations sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni n'en finissent pas de patiner. Un nouveau cycle de négociations à Bruxelles s'est achevé aujourd'hui et les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de cette impasse. La probabilité d'un accord avant la date butoir du 31 décembre s'amenuise encore. Les explications à Bruxelles de Johanna Hostein.
Pour trouver un accord avant le 1er janvier, il faut que le texte juridique qui organise les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne soit prêt au plus tard à la fin du mois d'octobre, a insisté Michel Barnier, pour laisser ensuite le temps aux différents parlements de ratifier le traité. L'heure tourne et le négociateur européen est inquiet.
Je suis déçu et je suis préoccupé. Les négociateurs britanniques n'ont montré aucune volonté de progresser sur des sujets fondamentaux pour l'Union européenne. On commence à prendre des risques sur la capacité d'aboutir à une ratification du traité à la fin de l'année.
Les négociations patinent toujours sur les mêmes sujets, la pêche, la coopération policière et judiciaire, la définition de règles de concurrence équitables. Dans le secteur du transport, par exemple, Londres ne veut toujours pas appliquer les standards européens, regrette Michel Barnier.
Pourquoi devrions-nous donner accès à nos routes à des transporteurs routiers qui refuseraient d'appliquer des règles pourtant indispensables aux bonnes conditions de travail et à la sécurité de tous? Pourquoi devrions-nous aussi permettre aux transporteurs aériens britanniques d'opérer les mêmes lignes que les opérateurs européens s'ils ne sont pas liés par des standards comparables en matière de protection de l'environnement ou de protection des passagers?
Le Royaume-Uni, de son côté, accuse les Européens, je cite, de rendre les négociations inutilement difficiles. Prochaine session de discussion à Londres le 7 septembre.
Johanna Hostein pour France Culture. Demain, samedi 22 août, l'humanité aura consommé plus de ressources naturelles que la Terre ne peut renouveler en un an. La date est fixée par l'ONG américaine Global Footprint Network. Elle travaille à partir de données statistiques de 200 pays. Chaque année, cette date arrive de plus en plus tôt dans l'année, sauf en 2020, elle a reculé 2-3 semaines par rapport à l'an dernier. Un répit causé par le coronavirus et les confinements, mais inutile sans changement rapide de modèle, selon Jean Jouzel, climatologue et membre de l'Académie des sciences.
C'est une bonne nouvelle, mais ça montre surtout que ce n'est pas la seule réduction d'activité qui va nous permettre de, disons, nous mettre sur une trajectoire vertueuse en termes de, disons, d'avenir de notre planète. C'est bien ça dont il s'agit. Quand on regarde en fait la diminution de 5-6% des émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2019, il faudra la répéter chaque année d'ici 2030 et au-delà pour respecter la neutralité carbone à horizon 2050. Le fait que le jour du dépassement, en fait, ne recule que de 3 semaines, même si c'est en période de Covid, montre bien qu'il y a beaucoup plus à faire, qu'il faut aussi changer complètement et rapidement. C'est maintenant que ça va se jouer. C'est notre avenir de la planète se joue dans la décennie 2020, pour, en tout cas pour le réchauffement climatique et pour beaucoup d'autres choses aussi. Si on fait comme après la crise de 2008, c'est-à-dire une reprise construite autour du même modèle, on va de nouveau dans le mur et on peut être quasiment certain que le jour du déplacement sera encore plus tôt dans l'année, l'an prochain, si on repart sur le même modèle qu'avant.
Notre avenir se joue dans la décennie 2020. Le climatologue Jean Jouzel, interrogé par Thomas Larabi. Notre avenir se joue dans la décennie 2020. C'est un bon sujet pour des militants politiques, notamment lors de des universités d'été. Plus prosaïquement, il se pose aussi une autre question. Quel candidat de la gauche pour l'élection présidentielle de 2022? Europe Écologie, Les Verts, à Pantin, près de Paris. La France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. Les rapports entre les deux partis sont très distants, sauf que chez les Verts, deux leaders semblent se dégager pour la présidentielle, Yannick Jadot et Éric Piolle, le maire de Grenoble, bien plus proche des Insoumis que le député européen. Et il y a quelques heures, Éric Piolle et Jean-Luc Mélenchon se sont affichés ensemble pour plaider le dialogue, une rencontre mise en scène aux amphis d'été des Insoumis, Sarah Tuchérer.
Le décor est champêtre autour d'un palais des congrès planté en pleine campagne drômoise. Tout sourire, Jean-Luc Mélenchon et son hôte fendent la foule.
Monsieur Piolle, quel est le sens de votre visite ici ?
Bon, on discute tout le temps, dans ces rentrées d'été. Donc je serai aussi à Blois samedi prochain au Parti Socialiste. Et c'est dans ce dialogue qu'on va nourrir cette envie de faire ensemble une alternance pour 2022.
Le duo monte ensuite sur scène pour s'adresser aux militants. Jean-Luc Mélenchon salue l'ami devenu maire de Grenoble dans une alliance avec les Insoumis.
Ça nous fait plaisir que tu aies fait cet effort. On sait très bien que ça n'a pas de valoir que des compliments. D'être venu nous voir, parce que c'était très mal fréquenté. Ici, c'est rempli d'Insoumis. Alors, Mais c'est bien que tu aies fait ça. On souhaite que ça pèse dans les débats. Moi, je m'en cache pas. Je souhaite que ça pèse dans les débats d'Europe Écologie Les Verts qui se mettent à réfléchir autrement qu'en nous voyant comme des concurrents. Bon, on sait qu'on a des divergences, ça va, on le sait, on ne sait pas comment on va les régler, mais on sait aussi sur quoi on converge.
Au micro, Éric Piolle dénonce la pression ultra-libérale qui pèse sur les services publics, des mots doux aux oreilles des Insoumis.
Si nous voulons transformer le pays, nous ne le transformerons pas avec les 10% d'en haut, là, qui sont évidemment pas avec les 1% qui font sécession et qui s'en mettent plein les fouilles et qui continuent leur pression ultra-libérale sur nos biens communs, sur le système hospitalier, sur la police, sur l'éducation, sur l'eau, sur tout ce qui touche sur l'énergie. Mais pas non plus juste avec ceux qui sont aujourd'hui bien installés et ceux qui viennent me voir en disant « Mais Éric, ok, on comprend ton projet politique, t'es radical, ok, on est d'accord pour y aller, mais qu'est-ce que tu fais là, à faire avec l'extrême gauche, là, c'est quoi le problème ?» Et moi je leur dis « Ben, les amis, c'est juste que je changerai pas le monde avec vous. Nous changerons le monde ensemble avec ceux qui sont insoumis, avec ceux qui s'indignent, avec ceux qui ont dans leur trip l'envie et le désir de changer le monde. » Qu'ils ne le font pas juste par une réflexion du cerveau, mais qu'ils le font parce que ça a du sens pour la justice sociale et la justice climatique. Voilà.
Selon les deux hommes, rien ne s'oppose à des listes communes au régional l'an prochain. Jean-Luc Mélenchon y met une condition, qu'elles ne soient pas toutes menées par les écologistes.
Sarah Tuchérer aux amphis d'été des Insoumis. Quant aux universités des Verts, eh bien elles inspirent le ministre de la Santé, Olivier Véran. J'ai vu une photo où tout le monde portait un masque, mais se tenait la main, dit-il. Parfois, les gens se sentent surprotégés par le masque et n'appliquent plus certaines mesures de sécurité, affirme le ministre sur France Bleu Gard-Lozère. Les mesures individuelles doivent s'appliquer partout et tout le temps. Petit à petit, le voile se lève sur la disparition de la jeune Estelle Mouzin en 2003. Il laisse apparaître le visage du tueur en série Michel Fourniret. Son ex-compagne Monique affirme qu'il a bien séquestré, violé et tué Estelle Mouzin dans une maison familiale désertée des Ardennes. Pour maître Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin, la justice avance enfin. C'était d'autant plus important que le tueur en série a tendance à perdre la mémoire.
Nous avons demandé à la juge de mettre tous les moyens très vite. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle fait. Et ce qu'on peut dire, c'est que si l'institution judiciaire a failli justifier aujourd'hui, elle travaille enfin comme elle doit travailler pour donner une réponse à cette famille dans la douleur depuis 17 ans. Monique Olivier a donné des précisions telles que on peut être sûr que ce sont eux. Nous en étions sûrs depuis longtemps. Nous l'avions dit à plusieurs reprises. Nous avions demandé, redemandé, redemandé à ce que l'enquête se poursuive sur cette orientation. Eh bien, ça vient malheureusement confirmer des éléments réunis depuis des années qui menaient sur la piste de Michel Fourniret et de Monique Olivier.
Maître Didier Seban avec Audrey Tison. Michel Fourniret sera entendu la semaine prochaine. En 2017, France Culture a consacré une grande enquête radiophonique qui partait à la rencontre des protagonistes de l'affaire Estelle disparue. Vous pouvez retrouver cette enquête sur franceculture.fr. Et puis je vous parlais d'Alexeï Navalny en début de ce journal. Les médecins russes estiment qu'il peut être transporté. On vient d'apprendre que l'opposant russe va quitter l'hôpital d'Omsk dans les heures qui viennent. Il partirait pour Berlin. Le temps demain, attention à la perturbation pluvio-orageuse en début de journée, de l'Alsace à la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'arrière, le temps est variable. Les températures minimales sont en baisse. On attend en général de 13 à 19 degrés et de 20 à 23 degrés sur le pourtour méditerranéen.